sérophobie, la peur ou l'inquiétude de quelque chose déjà. Mais alors séro, les personnes séropositives. Et je pense que les personnes qui sont séropositives, ils en viennent même à ne pas dire pour pas avoir de rejet, quoi. Alors que bon, il n'y a pas de risque.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver mes petits chenapans du Gai Savoir. Je vous imagine là, comme ça, dans votre fauteuil Eversteel, l'oreille poilue collée au transistor, car oui, si vous pouvez nous écouter en direct à 16h, on va pas se mentir, c'est que vous êtes retraité. Chaque après-midi, vous frétillez d'excitation quand vous entendez l'orgue de la NBA qui retentit à la fin de notre générique. Ça vous fait des frissons dans la couche confiance, car vous savez que vous êtes parti pour 2 heures de rigolade. Rigolade informative certes, mais rigolade avant tout, car Zoom Zoom Zen c'est comme Friends, en moins bien écrit. Il y a Manon, la fofolle qui bitch en douce sur les invités.
Un vrai laidron.
Quentin, le rigolo qui s'en mêle souvent les pinceaux.
Et il y en a un, des quinquas.
Sans oublier Cyril, notre rédacteur en chef bougon, qui dit si souvent
« Et oh, et oh, et oh !»
qu'on a fini par le surnommer Grincheux.
Et oh.
Bref, comme chaque après-midi, vous êtes impatient de découvrir le nouvel épisode de votre sitcom préféré. Vous vous demandez quel mot on aura choisi comme thème du jour, mot qui est généralement un véritable tremplin vers la déconne. Eh bien, accrochez-vous mes champions, parce qu'aujourd'hui, on va zoomer sur la sérophobie. Et oui, la boule noire. Cet après-midi, le Gai Savoir va la jouer sobre puisqu'on va zoomer sur cette hostilité qui existe encore aujourd'hui à l'encontre des personnes séropositives. La recherche a beau avoir fait des pas de géant, une personne porteuse du VIH est traitée pour ça, a beau ne représenter pour autrui aucun risque de contamination. Malgré tout, une méfiance persiste dans certains esprits à l'égard des personnes séropositives. Alors pourquoi ? Est-ce un problème de communication, un problème d'éducation, un problème de méconnaissance de la maladie tout simplement ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Michel Ohayon.
Bonjour, merci d'être avec nous dans Zoom Zoom. Vous êtes médecin, sexologue, vous avez créé le premier centre de santé sexuelle en France il y a 15 ans, le 190 à Paris. Un centre qui met en place une approche et une prise en charge inédite du VIH. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. On vous avait déjà reçu en 2022, il y a longtemps maintenant, pour nous expliquer les ravages causés par le chemsex. Et aujourd'hui, c'est au sujet de la sérophobie qu'on a décidé de vous inviter à quelques jours de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Le VIH fait encore peur alors que la médecine a fait d'énormes progrès dans ce domaine. Les malades, eux, souffrent encore de stigmatisation. On va faire le point avec vous. Juste le temps de vous présenter ma fine équipe. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
À vos côtés, Michel, regardez dans vos indésirables. Elle a dû vous envoyer un message avec une pièce jointe.
Et aujourd'hui, une super série anglaise que je vous recommande. Elle nous plonge dans le milieu queer des années 80, quand le sida était encore appelé le cancer des homosexuels.
C'est une série récente ou c'est une...
Non, 2-3 ans.
Ah ouais, je crois qu'elle est géniale, je crois que je l'ai vue.
Elle est très très bien.
Face à vous Michel, que faisait-il à Nice vendredi dernier ? Pourquoi a-t-il choisi pile ce jour-là, sachant qu'étrangement ma mère aussi était à Nice vendredi ? Était-il vraiment, comme il nous l'a affirmé, au salon de l'IA de Sophia Antipolis ?
Sommet
qui pourtant ne démarrait que samedi. Lui fallait-il vraiment un jour de préparation sur place ou bien Pierre Courade lui avait indiqué que ça démarrait dès vendredi parce que pour Courade, tous les sommets consacrés à l'IA démarrent toujours le vendredi ou bien mijotait-il encore quelque chose de chelou avec ma mère. Oui, nous avons beaucoup de choses à débriefer hors antenne. Mais déjà, Quentin, dans un premier temps, dites-nous, la sérophobie, est-ce que c'est un mot que les gens connaissent ?
Alors non, j'ai appris un mot aux gens dans la rue. Personne ne l'avait, même si quand on décompose le mot, on arrive facilement au sujet qui nous intéresse. Alors justement, où est-ce qu'on en est dans la rue en 2025 sur ce sujet ? Entre fantômes du passé et stéréotypes à déconstruire, je vous parle de mes rencontres au micro d'Inter dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, quoi de plus drôle qu'un quiz sur la sérophobie ? Eh bien, pas mal de trucs, dont par exemple un quiz sur les autres phobies plus propice aux plaisanteries, comme par exemple la très handicapante hippopo-monstroseski-pédaliophobie, qui, je vous spoil, n'est pas la peur de manger de l'hippopotamus en pédalo. D'ailleurs, qui pourrait avoir peur de ça ? C'est la vie. Juste avant 17h.
Si, c'est bon.
Hippopotamus, pédalo, ça peut être sympa.
Mais c'est sympa, juste avant,
de toute façon, ça ne parle.
Oui, c'est pas ça.
Phobie
bon,
n'a pas.
On peut parler quand même, non ?
Oui, c'est vrai que ça peut être. Ça pourrait faire dans Zoom Zoom Zing. On pourrait relancer cette
phobie. Michel, vous en pensez quoi ?
Juste avant 17h. Oui, Cyril l'a trouvé brillant sur scène l'autre jour. Non, il n'accepte pas pour autant de l'augmenter. GC nous rejoindra toujours au même tarif dont il devra apprendre à se contenter. Après 17h, restez avec nous, on zoomera sur Shein, l'enseigne de fast fashion qui pourrait être suspendue en France dès demain. Mais d'abord, zoom donc sur la sérophobie, Michel Ohayon. Cette sérophobie, c'est une peur, une discrimination ou une méconnaissance tout simplement de ce qu'est une personne séropositive.
Comme toutes les formes de stigmatisation, comme le racisme, comme beaucoup de choses, il y a de la peur. Il y a de la discrimination, il y a toujours un fond de méconnaissance quelque part qui va être plus ou moins présent dans la manière dont les gens vont exercer finalement leur sérophobie. Il reste quand même la peur irrationnelle d'une contamination par quelque chose qui est de plus en plus nébuleux, je pense, aujourd'hui. Mmh, mmh. Enfin, autant dans les années 80-90, on avait une petite idée de ce que pouvait être le sida et de ses conséquences. Aujourd'hui, c'est devenu très mystérieux. Les personnes qui sont porteuses du virus, non seulement ont une charge virale indétectable, mais sont devenues indétectables de leurs propres mots. Et ils ont quelque part disparu un petit peu du champ. Ce qui fait qu'ils sont peut-être encore plus l'objet de fantasmes, tellement parce ils existent peu. Ouais. Parce que c'est très flou et c'est très nébuleux.
Face à vous, Michel, devant son mutisme, il va falloir se rendre à l'évidence, on ne connaîtra jamais le nom de cette actrice avec qui il avait fricoté lors d'un concert de Prince au tournant des années 2000.
En ce moment, ça vous obsède, cette histoire.
Et oui, ça m'obsède parce que vous ne lâchez pas le morceau. Ouais. Et je me dis, mais comment c'est possible de garder ça en soi? Vous avez besoin de partager, il faut vous confier, Cyril. Ouais. Et comme elle est sûrement décédée aujourd'hui, car les bookmakers parient sur Rosie Vart... Elle a emporté son secret dans la tombe. Cyril, chaque après-midi, vous remontez pour nous aux origines de notre notion du jour. Alors, la sérophobie, d'où ça sort?
Imaginez, vous êtes sur une appli de rencontre, tout se passe bien, vous matchez, les messages fusent, vous avez visiblement le même humour, vous envisagez de vous rencontrer, et puis arrive cette question presque comme un réflexe, au fait, tu es clean. Une question qui claque comme un jugement, et puis l'autre répond, je suis séropo. La conversation se fige, profil bloqué, c'est ce qu'on appelle la sérophobie, et ça ne sort pas de nulle part. Il vient même d'un moment très précis de notre histoire, les années 80, quand le VIH déferle sur le monde et que personne n'y comprend rien. Les médecins tâtonnent, les médias paniquent, et l'épidémie frappe d'abord ceux qu'on stigmatise déjà, les hommes gays et les usagers de drogue. On surnomme le virus le cancer gay, on mélange maladie, morale et identité.
Mais à cette époque, il n'y a pas encore de mots pour qualifier ce rejet.
Non, il faut effectivement attendre les années 90. Ce sont les associations, d'ailleurs, militantes comme AIDS ou ACT UP qui l'imposent. Eux voient ce que les médecins ne voient pas encore, que la souffrance des malades ne vient pas seulement de cette infection, mais de tout ce qui l'entoure. Le regard, les exclusions, la honte qu'on inculque, l'idée que les séropos seraient des gens à part. Aujourd'hui encore, la page n'est pas tournée. La sérophobie, c'est la trace d'un vieux traumatisme collectif que la science a dépassé, mais que certains réflexes sociaux n'ont toujours pas digéré. Alors d'où ça sort, la sérophobie? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Michel Oyon, est-ce que la sérophobie, c'est une conséquence déjà de l'homophobie?
Alors oui, pas que, parce que le VIH est une maladie quand même qui touche des minorités. C'est une réalité depuis 40 ans, et finalement c'est presque une bonne nouvelle que l'épidémie ne soit jamais généralisée. Donc ces minorités, qu'elles soient afro-caribéennes, qu'elles soient homosexuelles, qu'elles soient celles des usagers de drogue, sont des minorités qui elles-mêmes font l'objet d'une réprobation sociale dont il faut quand même admettre que depuis quelques années, elle est de plus en plus décomplexée. Mmh. Alors, la sérophobie, ça vient mettre une cerise sur le gâteau. Non, ça vient presque légitimer, quelque part, les attitudes discriminatoires antérieures. Au nom de la santé, risque, etc. Derrière ça, il y a quand même l'idée que on est séropos parce qu'on l'a bien cherché. Ce qui est un peu différent du racisme, on ne décide pas d'être noir, mais par contre, on l'a bien cherché parce qu'on a fait n'importe quoi, alors que, mon Dieu, on est quand même au courant.
Oui, alors ça introduit une culpabilité.
La culpabilité, alors, d'autant que la culpabilité des personnes vivant avec le VIH, rassurez-vous, elle est là. Ouais. Déjà, c'est pas forcément la peine d'en rajouter. Ouais. Et ça vient faire écho, évidemment, à cette injonction sociale à disparaître, quelque part.
Maintenant. Est-ce que cette peur, elle vient aussi du fait qu'on n'ait pas de vaccin contre le VIH?
On a mieux que ça. on a le traitement, on a la PrEP, ça marche mieux qu'un vaccin, et si tout cela était utilisé de façon rationnelle, avec une vraie politique de santé derrière, on n'aurait plus d'épidémie aujourd'hui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous expliquez qu'il y a encore le VIH, que ça existe encore, alors qu'on a apparemment tous les outils pour vaincre cette
alors,
maladie?
Alors, sur le traitement, puisque donc la notion quand même fondamentale, c'est qu'une personne qui est séropositive, qu'il sait évidemment, est prise en charge, et ça, elle l'est. Et si elle est prise en charge, ça veut dire qu'elle est traitée. Et aujourd'hui, si elle est traitée, c'est qu'elle a un traitement efficace, parce que les échecs thérapeutiques, maintenant, deviennent extrêmement marginaux. Donc, elle ne peut pas transmettre le VIH. À partir de là, j'ai presque tendance à dire qu'un rapport sexuel safe, c'est avec quelqu'un de ses repos. Parce que là, on sait qu'on risque rien.
Parce que lui, il s'est contrôlé, il est sous contrôle.
Là, le risque zéro, on l'a prouvé. Hein.
Et ce qui est fascinant sur la sérophobie, extrêmement agaçant, c'est que, quelque part, on ne connaît pas les progrès de la médecine. Exactement, on ne sait pas que le virus du sida est mieux traité aujourd'hui, en tout cas qu'il est jugulé. Et donc, on vit toujours avec le stéréotype des années 80. Et donc, c'est ça qui reste dans un coin de notre tête. On se dit, ah mais ce virus affreux, et c'est ça qui stigmatise l'autre. Alors qu'en fait, s'il n'y avait pas eu les années 80, finalement, le virus du sida ne serait pas un si stigmatisé que ça aujourd'hui.
Alors, c'est même plus tout à fait ça. Parce que, globalement, à peu près tout le monde a compris que c'était pas pareil que dans les années 80. Bon, sachant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont nés bien après cette époque-là aujourd'hui, qui n'ont pas de référence vécue à cette époque-là. Mais il y a surtout, je pense... ça y est, j'avais une idée en tête qui vient de sortir, c'est le privilège de l'âge.
je connais ça.
Et il y a des espèces d'automatismes verbaux. Par exemple, un truc très bête. Ah oui, mais ça se soigne pas. Traduit en français, ça ne se guérit pas, effectivement. Ça se soigne très très bien, mais on n'est pas capable d'éliminer le virus de l'organisme. On n'est pas capable d'éliminer un diabète. On n'est pas capable d'éliminer une hypertension non plus. Mais bizarrement...
Ça fait pas peur.
C'est, ben, le diabète et l'hypertension, c'est pas sexuel. On revient à la bonne vieille réprobation du sexe.
Non, pardon, juste, on a la même espérance de vie aujourd'hui quand on est séropositif que quand on ne l'est pas.
Et qu'on le sait.
Et qu'on le sait.
Voilà. Mourir du sida, c'est ne pas savoir qu'on est séropositif aujourd'hui.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
La connerie prend bien des formes, parfois surprenantes. Zoom aujourd'hui sur l'une d'entre elles, la sérophobie, l'hostilité envers les personnes atteintes du VIH. C'est notre sujet fil rouge cet après-midi, à quelques jours de la journée mondiale de la lutte contre le sida. On est toujours avec le médecin Michel Ohayon. Michel, comment elle se caractérise cette sérophobie au quotidien? Quand on est séropositif et qu'on se prend ça dans la gueule, ça ressemble à quoi? C'est des allusions? C'est des...
Alors ça va du petit au très violent. Le petit, c'est cette espèce d'automatisme, encore une fois, qu'il y a dans le discours social. Attends, je bois dans ton verre, ça s'appelle sida. Hein.
Des petites phrases.
Voilà, au bout de la 200e fois, quand on est séropo et qu'on entend ça, ça commence à devenir un petit peu gonflant. Et c'est toujours, est-ce que je le dis ou pas? Quelqu'un qui est par exemple sur une application de rencontre et qui va annoncer sa séropositivité pour être tranquille et pas avoir à faire un coming out, c'est « mais qu'est-ce que tu fous là à refiler ton sida à tout le monde? Dégage, t'as pas ta place ici. » C'est des choses comme ça.
Il y a une question qui est assez terrible et Cyril l'évoquait dans son Douce Assort. Est-ce que t'es clean?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle comporte comme violence, cette question, selon vous?
Ah ben ça veut dire que déjà on n'est pas clean, si on est séropo. C'est-à-dire qu'on est sale et qu'on a fait quelque chose de sale. C'est quand même ça l'histoire. Parce que par exemple, la question t'es clean s'adresse au VIH. C'est jamais est-ce que t'as une ch'touille ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment très spécifique de la question du VIH.
Vous dites justement qu'il y a encore aujourd'hui des médecins, des personnels soignants qui refusent des soins à des personnes atteintes de VIH. On se dit, on est en 2025, comment c'est possible?
Alors disons que les personnels soignants, les médecins, sont pas tous des gens plus intelligents que les autres. Et comme en plus, les personnes vivant avec le VIH ont forcément un rapport étroit avec le monde du soin, ils sont plus exposés au... Alors, ça s'est pas mal arrangé dans la plupart du champ médical. Il y a quand même ce qu'on reçoit aujourd'hui comme plainte des gens, c'est les gynécos et les dentistes, qui apparemment n'ont pas beaucoup progressé. Désolé pour les gynécos et les dentistes qui nous écoutent, mais j'ai beaucoup de femmes qui ont été un peu massacrées.
Parce qu'elles étaient porteuses du VIH?
Voilà. Donc déjà, elles sont présumées comme n'ayant pas de sexualité, comme ayant un appareil génital qui ne sert pas à grand-chose, finalement, et on ne va peut-être quand même pas en faire tout un plat. Les dentistes, en général, maintenant, le truc qu'ils mettent, c'est « Ah oui, je peux vous recevoir qu'en fin de programme », ce qui voudrait donc dire qu'ils ne stérilisent pas leur matériel. Donc, il ne faut pas aller chez les dentistes, parce qu'ils bossent comme des cochons. Voilà.
Il y a d'autres types de discrimination dont les gens vous parlent quand ils viennent dans votre centre, le 190, dans le monde du travail?
Ah, bien sûr.
Par exemple...
Dans le monde du travail, on ne doit pas dire qu'on est séropositif?
Non, on n'a pas à le dire, mais quand... c'est arrivé à un de mes patients, quand quelqu'un fait un malaise avec perte de connaissance, le SAMU arrive, le SAMU prend le dossier et il transmet vite à la réanimation, homme, 35 ans, séropositif, etc. Ouais. Tout d'un coup, le lendemain de sa promotion, il devient le vilain petit canard.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, oui.
J'ai lu un sondage qui est paru l'an dernier. Un quart des Français seraient gênés à l'idée qu'un enseignant de leur enfant soit porteur du VIH. Là, on va très très loin quand même dans la méconnaissance de la maladie ou la connerie, ou je ne sais pas. Enfin, c'est assez terrifiant quand même, ça.
C'est assez terrifiant. Alors, derrière ça, il y a aussi la sacro-sainte protection des enfants qui parfois sert de prétexte à tout et n'importe quoi.
On se réfugie derrière ça.
Voilà, c'est une excuse intéressante.
On l'a évoqué, mais quand même, revenons un peu sur les idées reçues qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, une personne porteuse du VIH sous traitement ne peut pas transmettre le virus d'aucune façon que ce soit.
D'aucune façon que ce soit, et une personne VIH qu'il sait est sous traitement.
Et On a aussi parlé. Elles ont également une espérance de vie similaire aux personnes séronégatives. Ça, c'est totalement vrai aussi.
Tout à fait. Tout à fait. Mais le professeur Uli Rosenbaum, qui a été un des co-découvreurs du virus, dit même que leur espérance de vie est supérieure puisqu'ils sont mieux suivis.
Oui, c'est vrai.
Vous parlez aussi d'une autre forme de... Enfin, d'une forme de sérophobie, c'est la sérophobie vis-à-vis de soi-même.
Oui.
De quoi il s'agit ?
C'est-à-dire que, finalement, avant d'être séropo, on est séronégatif, et beaucoup de gens avaient développé une forme de sérophobie ou d'hostilité plus ou moins intégrée vis-à-vis du VIH. Si je suis un peu sérophobe et que je deviens séropo, qu'est-ce que je me dis ? Que je suis vraiment une merde, comme je l'ai dit à d'autres. J'ai des patients qui me disent « Mais de toute façon, si je l'ai chopé, c'est que j'ai fait des conneries. Ouais. » Forcément. Et parfois, 10, 15 ans après. Et alors que nous, on n'a pas, on devient toujours séropo sans le savoir et en pensant qu'on ne le deviendra pas.
Est-ce que le corps médical culpabilise aussi certains patients ?
Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit encore le cas, mais moi je fréquente un corps médical très informé. Donc c'est, et en même temps, mes patients, ils ont tendance à choisir le corps médical auquel ils s'adressent. Souvent, ils ne parleront pas de leur séropositivité à quelqu'un qui n'est pas identifié avant comme étant fiable.
Quentin, même si une curiosité malsaine m'incite à vous poser la question, non, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé à Nice vendredi. Ce qui s'est passé au Negresco doit rester au Negresco.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit.
Restons plutôt concentrés sur notre thème du jour, Quentin, la sérophobie. C'est un thème qui parlait aux passants que vous avez croisés dans la rue.
C'est ce qu'on va voir. Et ma première rencontre est un retraité qui scrute mon écran de smartphone pour découvrir le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
La sérophobie. Je ne connais pas. Sérophobie, je ne connais pas. Je connais le sérum, je connais le... La sérophobie désigne la peur, la méfiance ou les comportements discriminatoires envers les personnes séropositives au VIH. D'accord.
Je lui demande s'il observe une forme ou des formes de sérophobie dans notre société.
Je ne crois pas. Je ne le ressens pas autour de moi. C'est un sujet dont on a parlé beaucoup dans les années 80. Il y a sans doute eu des fausses informations, certainement, qui ont circulé à ce moment-là. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui a été intégré, me semble-t-il, mais bon, j'avoue qu'on n'en entend plus beaucoup parler.
Et c'est vrai que le sujet VIH est certainement moins présent dans notre époque. Je discute avec ce jeune prof de français maintenant. Je lui apprends le mot, sérophobie. Nous parlons des discriminations à l'embauche, au logement.
En fait, au-delà de... Il y a déjà la situation des personnes qui sont touchées par ces phobies. Donc, ici, par exemple, les personnes séropositives, c'est hyper violent, en fait, de se faire refuser un logement, un travail à cause de ça. Et au-delà de ça, ça instaure tout un modèle de pensée qui est pas le bon et qui, en fait, nous emmène dans le mur, quoi. C'est-à-dire que si on accepte la sérophobie, au fond, on accepte de discriminer des gens pour des sujets qui sont pas de leur fait. Et derrière, ça touche beaucoup plus que les personnes qui sont séropositives. En fait, la lutte contre les discriminations, elle dépasse toujours la discrimination dont il s'agit, quoi.
Je vous présente Quentin maintenant. Il a la trentaine.
Sérophobie, la peur ou l'inquiétude de quelque chose déjà. Mais alors, séro... les personnes séropositives. Et je pense que les personnes qui sont séropositives, ils en viennent même à ne pas dire pour pas avoir de rejet, quoi. Alors que, bon, il n'y a pas de risque.
Je lui demande quel regard, lui, il porte sur cette injustice.
Moi, je couche avec des personnes qui sont séropositives, donc je sais qu'ils n'ont pas de, ils ont pas de charge virale, donc c'est pas un souci. Tant que j'ai confiance avec la personne, ouais. En fait, je l'ai su avant, évidemment, de coucher avec la personne et au détour d'une discussion, en fait, tout simplement, naturellement, en disant que la personne était séropositive et que je sais même plus, mais c'était assez naturel, quoi. En disant c'est comme ça et que j'ai un traitement et puis on est passé à autre chose, voilà. Mais j'ai confiance en la personne. Après, c'est sûr que quelqu'un de totalement inconnu, oui, forcément, ouais, la question se poserait, forcément.
Nous poursuivons sur les fantômes du passé, du drame que fut le VIH pour toute une génération et qui hante encore notre époque.
Oui, de toute façon, ça se voit même dans les prises de sang, etc. Même si légalement, les personnes homosexuelles, elles peuvent donner leur sang comme c'était avant. Mais bon, il faut être abstinent pendant plus d'un mois avant de donner son sang, etc. Enfin, on sent bien qu'il y a quand même toute une peur là-dedans, ça c'est sûr. Hein. Mais il faut être abstinent pendant, je dis un mois, je crois que c'est même pire qu'un mois. Je crois que c'est même 6 mois. Je crois qu'il faut avoir abstinent sexuel, même avec son conjoint, pendant 6 mois avant de donner son sang. Autant dire qu'on ne donne pas son sang dans ces cas-là, quoi.
Alors, c'est important d'être précis sur ce sujet. Interdit aux hommes homosexuels de 1983 à 2016, le don du sang est depuis possible pour cette population, à condition qu'elle respecte une période d'abstinence d'abord fixée à 1 an, puis ramenée en 2019 à 4 mois. Depuis le 16 mars 2022, les homosexuels peuvent donner leur sang librement, une condition quand même. Le donneur devra dire s'il prend un traitement pour la prophylaxie pré- ou post-exposition au VIH, donc la PrEP, on en parlait. Si c'est le cas, le don sera reporté de 4 mois. Le questionnaire permettra aussi d'identifier des comportements à risque incompatibles avec un don, multipartenaire, drogue, etc. J'attrape au vol mes deux dernières rencontres.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander vos prénoms ?
Angélique. Ava. Alors, on est toutes les deux en études de médecine à Sorbonne en 4e année.
Dernière réaction sur le mot qu'on décortique aujourd'hui.
La sérophobie. Enfin, je pense qu'en fait, le but, c'est vraiment de déconstruire ce qui a été fait les années précédentes. Là, on est dans une ère où on est justement en train de reconnaître que c'est plus du tout un tabou, c'est plus du tout vu comme quelque chose de mal. Il n'y a plus ces tabous de « ça peut se transmettre », il y avait des idées reçues par la salive, où on s'assoit, où on tient la main. On sait que ce n'est plus du tout le cas. C'est des personnes qui vivent avec, qui vivent comme tout le monde. Donc, il faut absolument arrêter cette sérophobie. Il faut enlever le mot « phobie », absolument.
Elles ont conscience que leur génération a son rôle à jouer.
Évidemment que nous, en tant qu'étudiants en médecine, on est un peu les premiers à devoir être formés là-dessus parce que nous aussi, plus tard, on sera en première ligne pour désensibiliser là-dessus. Donc.
Ouais, c'est maintenant que ça se joue parce que c'est surtout au niveau des médecins de demain qu'il faut commencer à sensibiliser et à bien faire comprendre tous les enjeux qui sont liés à la séropositivité et éviter au max la sérophobie parce que, comme tu as très bien dit, c'est nous qui serons en première ligne dans les prochaines années. Il y a peut-être des médecins qui ont été formés avant et qui n'ont pas ce truc-là en tête, qui sont un peu moins sensibilisés. Donc c'est à nous maintenant de prendre les choses en main et de changer ça.
Et si les jeunes gens que je rencontre me disent qu'elles ont un rôle à jouer, c'est peut-être parce qu'elles comprennent une chose simple, la sérophobie ne disparaît pas avec un décret, une réforme ou une autorisation à donner son sang. Elle disparaît quand le regard change, quand on cessera d'associer un statut sérologique à une valeur morale, quand plus personne ne sera sommé d'expliquer sa vie pour avoir le droit d'en vivre une.
Merci Quentin. Michel Oyen, qu'est-ce que vous pensez de cette jeune génération, justement, les médecins de demain, enfin, si on en croit les témoignages qu'on a entendus, il y a de quoi être optimiste en fait, on a un autre discours sur le VIH, un autre regard surtout.
Oui, il y a bien sûr de quoi être optimiste et les choses changent. Il y a quelque chose que je trouve assez étonnant quand même dans le propos des deux étudiantes, donc elles sont jeunes par définition, et elles parlent de, bah, bien sûr maintenant on sait que ça se transmet pas par... Mais, on le sait depuis le milieu des années 80. C'est pas, elles étaient pas nées, on le savait déjà. Et en fait, la sérophobie, elle s'est poursuivie en s'appuyant sur des arguments de transmission totalement fantasmatiques, alors que ça faisait très longtemps qu'on savait que c'est 86-87, quasiment, l'affaire est quasiment réglée.
Mais parce qu'il
déjà.
Y avait beaucoup de désinformation, oui. En fait, sur le VIH à cette époque.
C'est surtout que celui qui dit que tout peut arriver et que Jean-Marie Le Pen, le sida il transmet par la sueur, le machin, quasiment par la pensée, c'était les années 90, et tout le monde peut toujours dire n'importe quoi, et c'est beaucoup plus frappant que, ben non les gars, c'est beaucoup plus simple que ça.
Moi j'aimerais revenir avec vous sur une chose, est-ce que l'interdiction à donner son sang a participé, de près ou de loin, à une forme de sérophobie ?
Alors ça serait très long à expliquer. Moi je pense que c'est pas le problème le plus intéressant. En fait, des interdictions à donner son sang, il y en a des tonnes. Si vous avez séjourné en pays tropical, vous avez une interdiction pendant tant de temps. On cherche des virus comme HTLV1, HTLV2, qui sont des virus extrêmement rares et dont les conséquences sont même pas d'ailleurs parfaitement certaines. Donc je veux dire, la sécurité transfusionnelle, notamment en France, elle est extrêmement, extrêmement pointilleuse et pas seulement vis-à-vis du VIH. À un moment, ça a été perçu comme un enjeu militant parce que ça venait renforcer le sentiment pour les séropos d'être des êtres inférieurs et déclassés. Mais je crois que ça a été probablement surinterprété. Quand on regarde quels sont les multiples obstacles au don du sang, pour des raisons, alors qu'on pourra estimer excessives ou pas, mais pour des raisons de sécurité. Je pense que, mais c'est très compliqué à expliquer ça.
Une question peut-être un peu naïve de ma part, mais pourquoi, alors peut-être qu'on le fait d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'on enseigne le fonctionnement du VIH, les traitements à l'école, tout simplement, je ne sais pas, en SVT, est-ce qu'on n'explique pas à un moment en biologie comment ça fonctionne pour dédramatiser quelque part ou clarifier ce virus qui est toujours l'objet de fantasmes aujourd'hui ?
Alors ça, j'avoue que je ne suis pas forcément très compétent pour répondre à la question. À ma connaissance, c'est partie des choses qui sont évoquées. Après, vous savez, le VIH, c'est pas exactement une maladie rare, mais pas loin. 180 000 personnes touchées par le VIH en France sur 69 millions, ça va, on n'est pas dans un truc très très fréquent. Il y a moins d'aséropos par médecin en France. Donc, non mais c'est vrai. Et donc, même dans les études de médecine, c'est quand même peu abordé. Moi, je suis une génération où ça n'existait même pas. Mais c'est pas par rapport aux millions de diabétiques, je veux dire, c'est très marginal le VIH. Et c'est ça aussi, cette rareté qui participe aussi à son exceptionnalité. L'impact sociétal du VIH est monstrueux par rapport à ce que ça représente en termes de personnes concernées.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Pour le commun des mortels, concocter un quiz alliant plaisir d'apprendre et joie de divertir sur le sujet sensible de la discrimination envers les personnes séropositives pourrait paraître mission impossible. Mais voilà, mon co-auteur Gérald n'est pas un mortel comme les autres. C'est un mortel défoncé au crack. Et quand un sujet est trop compliqué, il le coupe en deux à la tronçonneuse. Ce qui nous donne aujourd'hui donc non plus un quiz sur la sérophobie, mais sur les phobies tout court. Jouons, grâce au coup de génie de Gérald, au Zoom Zoom Test. Et pour la première question, je vous propose un petit aller-retour dans la journée qui ne choquera pas Quentin, lui qui vendredi a fait Paris-Nice-Paris en l'espace de 9 heures, en mode de Balek, Jean-Marc Jancovici, direction
en
la...
avion,
en TGV, chacun fait ce qu'il veut.
Vous étiez en avion dans un gros avion, dans un bimoteur, vous êtes une honte de la République, Quentin. D'ailleurs, je vous enlève un point. Direction la Bretagne. En sorcelant de Bretagne, théâtre d'une des séquences les plus fortes de cette émission, c'était dans Sa France à lui, personne n'a oublié la bromance entre Alain, notre ami brestois, et Arek, ce goéland borne qui avait d'abord égayé sa vie pendant quelques temps avant hélas de s'envoler pour d'autres horizons. Certainement la baie vitrée du voisin d'en face puisqu'il était borgne. Eh bien, sachez que cette amitié homme-oiseau, cette amitié homme-oiseau n'aurait peut-être jamais pu se développer si Alain avait souffert d'ornithocoprophobie, la version pour la fiente d'oiseau. Danatidaphobie.
C'est bien travaillé,
la peur d'être observé par un oiseau. Si vous voyez les mots écrits, c'est très compliqué.
L'orthophonie peut-être, non ?
Alors, vous êtes à moins 2, Quentin, ça va être difficile pour vous de remporter ce quiz. Ou tout simplement, la goélandophobie, si ça existe.
B.
Eh bien, Quentin, vous êtes mal barré. Bonne réponse de Manon Mariani, qui mène 1 à moins 2.
Elle existe ou pas, la A ?
Non, elle n'existe pas. Ne jugeons pas, Manon. Vous souffrez d'agoracouradophobie. La peur de vous retrouver coincé dans un ascenseur avec Pierre Courade. Certains souffrent
Ça m'est jamais arrivé encore. Ouais,
en régie, on me souffre, tout le monde souffre de ça. C'est vrai. Certains souffrent d'anatidéphobie, la peur d'être épié par un oiseau. Alors, le professeur Rollin, ce pinailleur assermenté, objectera sûrement qu'il s'agit plus précisément de la peur d'être observé par un canard ou un cygne. Mais après tout, le goéland est un palmipède aussi, oui, ça marche. Sans transition, dressons la liste des qualités de notre rédacteur en chef bien-aimé. Professionnel, intransigeant, épicurien, sa barbe sent bon, le morbier fondu. Cyril Lacarré est vraiment un être exceptionnel. Et s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être carminophobe. Car la carminophobie, c'est quoi d'après vous ? La peur de rougir tellement on est émotif ? La phobie de la viande saignante ? Ou l'angoisse d'avoir des gaz en public ?
C !
B. Alors, ça marche. Mais B.
Ah, Manon, vous avez suivi votre instinct sur les gaz de Cyril. C'est une bonne réponse. Bravo, oui. Quiconque était présent dans l'open space de Zoom Zoom l'après-midi qui avait suivi le chili con carne de la cantine de Radio France peut en témoigner. Cyril n'est pas carminophobe pour un sou. Mais puisque nous sommes dans la sphère digestive...
Moi, je l'ai suivi de la cantine jusqu'au bureau.
Ça sentait dans le couloir.
On ne veut pas connaître les détails, les amis. J'ai une pensée pour Quentin qui, depuis un épisode gastrique traumatique qui l'avait obligé à quitter l'antenne précipitamment il n'y a pas si longtemps, est devenu laxophobe. Laxophobe. Ne tournant pas autour du pot, il a peur de se chier dessus. Appelons un chat, il a peur que son étron ne puisse jamais sortir de son corps. Ou, n'ayons pas peur des mots, il est traumatisé à l'idée de manquer de papier toilette au moment fatidique. Le laxophobe.
B. Son étron, ça me fait rire.
B, c'est drôle.
Allez, A. Ah, il a peur de se chier dessus.
Manon. Je n'aime pas que vous êtes vulgaire, mais c'est vrai que c'était la phrase que j'ai citée. Et c'est encore une bonne réponse de Manon. Mais c'est fou. Pauvre Quentin. On rit, mais cette phobie le hante et a transformé son quotidien au point qu'il a été obligé de troquer les fameux jeans slim de sa jeunesse contre de larges baggy au cas où. Enfin, on a trop peu parlé de Manon dans ce quiz. Il est temps de corriger le tir. Manon, dont on connaît tous la ruralophobie, qui fait qu'elle a longtemps pensé que Poitiers était une fiction, comme Gotham City. Ma fille. Elle souffre d'un autre mal, Manon.
Ah bon ?
Alors attention, là je me lance.
T'es égoïste, ça n'a rien à voir
avec le ski.
L'hypopoto-monstroseski-pédaliophobie.
Ah, ça c'est
qui est, comme chacun le sait, évidemment, la peur des mots trop longs, désastreux à l'antenne, la peur des hippopotames qui pédalent, typique de l'abus de MDMA, ou rien de tout ça, mon co-auteur a juste fait un micro AVC.
C.
Ah, vous tentez le C ? Ouais. Je vais tenter le A, du coup.
Eh ben.
Anticonstitutionnellement, un truc comme
non,
ça.
Là, c'est plus long, quoi. C'est un mot encore plus long, du coup.
Non, mais je cherche un mot long.
J'ai raté dès la deuxième syllabe. Allez-y.
C'est une bonne réponse de Quentin.
Ah.
Comme quoi, tout arrive.
La première.
Oui.
Comme ça, je ne suis pas Fanny.
Oui. La preuve, Manon, écoutez.
Sauf que derrière son sourire enjolivé,
au-delà de trois syllabes, ça patine. Un handicap que vous surmontez au quotidien en raccourcissant mots et expressions. Doulé, c'est ma passe, askip et autres quoiqu'il qui fleurissent votre vocabulaire. Bravo pour votre adaptabilité. Pour vous départager, attention, une question si facile que je ne vous propose pas d'option. Manon Quentin, qu'est-ce que la luposlipaphobie ?
Les 10 points d'avance.
La luposlipaphobie, c'est évidemment quoi ? Pas de... C'est tellement facile, allez-y.
La luposlipaphobie.
Oui, bien sûr.
C'est un truc avec les lèvres.
Mais vous le savez.
La peur des suçons.
La peur des suçons.
La peur du bruit des lèvres.
La peur du bruit des lèvres. Non. La peur du bruit des suçons. Eh bien, la luposlipaphobie est évidemment la crainte excessive d'être poursuivi par des loups autour d'une table de cuisine sur le parquet fraîchement ciré en ne portant que des chaussettes aux pieds.
Allez, Gérald et...
Voilà.
Gérald,
il a retrouvé l'adresse de la colline du crack. Victoire de Manon, mais triomphale victoire. La reine des phobies.
Comme hier.
Je m'incline.
Zoom aujourd'hui sur une sérophobie moins drôle, la sérophobie, cette discrimination envers les personnes porteuses du VIH. On est toujours avec le médecin Michel Ohayon. Michel, vous avez ouvert, on l'a dit, un centre de santé sexuelle à Paris, le 190, je le rappelle, un centre où vous avez voulu décloisonner la prévention, le dépistage et les soins. Expliquez-nous comment ça fonctionne et dans quel cas il faut aller vous rendre visite.
Alors, il faut nous rendre visite quand on est, pour reprendre une expression, séro-concerné, séro-exposé ou séro-positif. On s'occupe à la fois de l'accompagnement médical des personnes qui vivent avec le VIH, que de la PrEP, que de la prévention, que du dépistage, etc. On s'adresse plutôt à des minorités qui sont particulièrement exposées. Et comme sur la porte, c'est marqué centre de santé sexuelle, et ça a eu un gros impact dans notre travail, ça veut dire que par définition, on peut être séropo et avoir une sexualité. Ce qui n'est pas du tout évident dans le milieu de soins.
Est-ce qu'on est suffisamment, nous, Français, suffisamment bien informés ? Je voyais un sondage paru l'an dernier, 61% des Français connaissaient la différence entre VIH et SIDA en 88. Ils sont seulement 49% aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous nous rappelez la différence ?
Alors, être séropositif, c'est être porteur du VIH. Tout simplement. Être sida, c'est être malade du sida, c'est-à-dire avoir une infection par le VIH a priori ancienne et qui a eu le temps d'évoluer au point qu'on est immunodéprimé et qu'on a des maladies sévères, voire mortelles, qui sont liées au virus. En même temps, on a toujours dit sida. Le mot commun, c'est on dit pas, tu peux boire dans mon verre, t'es pas séropositif. On dit t'as pas le sida. Ouais. Et je crois que c'est peut-être aussi de là que ça vient.
Vous en avez parlé, on en parlait en antenne, on a fait une émission quand même il y a 3 ans sur la PrEP. Est-ce que les choses ont évolué depuis ? On parlait du fait que pas grand monde était au courant que ce traitement du coup préventif contre le sida existait. Est-ce que vous voyez de nouvelles personnes, beaucoup plus de gens vous la demander, etc. ?
Non, nous on la propose, en fait.
Ouais. On vous la demande pas.
Non, nous on essaye, alors on a un biais, nous on essaye surtout d'attraper, d'entrer en contact avec des gens qui sont exposés, qui vont pas forcément faire la démarche d'aller la rechercher pour la leur proposer. Et c'est comme ça qu'on est devenu le premier instaurateur de PrEP en France d'ailleurs. Ceux qui savent qu'ils la veulent, ils ont plein d'endroits où aller, ils ont pas forcément besoin de nous.
Mais il y a un tabou encore autour de cette maladie, j'ai l'impression. Pourquoi si on avait trouvé un traitement contre tel ou tel cancer, il y aurait des publicités partout pour dire maintenant allez vous faire soigner de ça. Bah, on a un nouveau traitement. Aujourd'hui, la PrEP, on n'en parle pas. Il n'y a pas de communication. On a l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique d'en parler.
Les seules communications qu'il y a pu avoir depuis 10 ans, parce que la PrEP va avoir 10 ans en France bientôt, c'est l'association AIDS qui l'a faite. C'est pas le ministère de la Santé. Sur la dernière campagne, il y avait avec le soutien de Santé publique France, financier, hein, même pas logistique, et c'est tout. Je crois qu'il y a un truc qui reste en filigrane dans l'idée de beaucoup de gens, à la fois usagers potentiels et soignants, c'est qu'avec la PrEP, les gens feraient n'importe quoi.
Ah, d'accord, okay.
Qu'est-ce que c'est que n'importe quoi ? Est-ce qu'avoir une sexualité débarrassée de la peur du VIH, est-ce que c'est ça, n'importe quoi, alors qu'on devrait vivre dans cette peur ? La PrEP est plus efficace que le préservatif en prévention du VIH, en tout cas pour les populations exposées. Ça, c'est prouvé, c'est montré. On dit derrière, ah mais attention, la PrEP, ça protège du VIH, mais pas des IST, comme si la chaux de pisse et le sida, c'était la même chose déjà. Ouais. Et de toute façon, une IST sur deux, c'est un rapport oral. Donc la PrEP ne protège, le capote ne protège pas non plus, puisqu'il n'est pas utilisé dans les rapports oraux. Donc ça, c'est aussi un faux argument.
Manon.
La PrEP, elle se prend, il me semble, tous les jours. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle PrEP qu'on peut prendre en une seule injection, une ou deux fois par an. C'est arrivé en France
Alors, la PrEP, elle se prend tous les jours ou, en ou ciblée sur les rapports sexuels, c'est une PrEP orale. Il y a une PrEP qui se prendrait en injection tous les deux mois, qui a une autorisation de mise sur le marché en France, mais la négociation de prix avec l'assurance maladie traîne depuis un an. Pour ce qui est de la PrEP, tous les six mois, il faudra compter environ deux ans à peu près.
Plus d'un Français sur deux ne met pas systématiquement de préservatif quand il rencontre un ou une nouvelle partenaire. Ça, c'est inquiétant.
C'est pas nouveau.
Non, je dis pas ça.
Ça a toujours été le cas.
Et est-ce qu'il y a un relâchement général ou pas ?
Je crois pas.
Ok.
Je crois pas.
En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur, comme je disais tout à l'heure, où est-ce qu'on peut se renseigner, on en parle un peu en antenne, mais tout simplement, je l'avais presque oublié, alors que pourtant on communique beaucoup à chaque journée de lutte contre le sida, c'est évidemment le site Sida Info Service. C'est là que vous trouverez toutes les données pour briser ce fameux flou sur cette maladie. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une mini-série aujourd'hui, elle s'appelle It's a Sin, elle est britannique, elle est sortie en 2021 sur la chaîne Channel 4, et je pense que c'est l'une des séries qui m'a le plus bouleversée ces dernières années.
They think it's this virus, AIDS. There are boys dying all over the world from sex.
I've got some news for you. We're gonna live.
It's a Sin raconte la vie d'un groupe d'amis à Londres au début des années 80, au moment où apparaît un nouveau virus inconnu, le VIH. On suit Richie, Roscoe, Colin, Ash et leur ami Jill rassemblés dans une colocation qu'ils appellent The Pink Palace. Alors au départ, c'est une ode à la liberté, à la fête, à la jeunesse queer de l'époque, les soirées, la drogue et surtout le sexe. Puis, petit à petit, ce qui était une rumeur devient réalité. Le sida frappe le monde entier. Le virus vient toucher de plein fouet cette colocation joyeuse et contaminer certains d'entre eux. La série devient de plus en plus sombre, parle de la peur, du déni, mais aussi de la violence sociale immense qui frappait à l'époque le milieu homosexuel. Elle montre comment les malades sont isolés, souvent rejetés par leur propre famille et par l'État, et comment les médias s'enfoncent dans le silence, où on l'a dit, les mensonges et la désinformation. Cette série est importante pour son créateur Russell T. Davis, connu pour sa série Queer and Folk et pour avoir relancé Doctor Who dans les années 2000. Lui, il avait 18 ans en 1981, exactement comme ses personnages. Il a vécu dans ce Londres-là, il a perdu des amis du sida et il dit que beaucoup de scènes lui viennent de conversations réelles. Le personnage de Jill, par exemple, est inspiré de sa véritable amie Jill Nalder, militante à l'époque. Il lui rend hommage. C'est elle qui commence à s'inquiéter pour ses amis, qui reste près d'eux ces moments difficiles, qui ne juge jamais non plus. Elle va faire partie de cette génération de jeunes militants qui demandent à ce que les pouvoirs publics prennent cette maladie au sérieux et qu'on arrête d'ostraciser les hommes gays. À sa diffusion, It's a Sin devient un des plus grands succès de Channel 4 et provoque une onde de choc. Au Royaume-Uni, les demandes de tests pour le VIH battent des records immédiats. Car montrer cette histoire, c'est aussi réparer un oubli, c'est rappeler que derrière les chiffres, il y avait des visages, des amitiés, une génération aussi sacrifiée par l'indifférence et la sérophobie.
Merci Manon. Michel Oyon, on parle évidemment des personnes séropositives aujourd'hui, mais leurs proches aussi jouent un rôle considérable pour alerter et les prémunir peut-être contre la sérophobie ambiante.
Les proches ne sont pas toujours au courant. Ouais. Parfois, c'est la séropositivité est cachée aux proches. Ils ont déjà tellement souffert quand je leur ai dit que j'étais homo, si je leur dis maintenant que je suis séropo, en plus ça veut dire qu'ils auront eu raison. Donc, c'est assez épouvantable. Hein. J'en reviens sur l'histoire de pause des années 80. Ouais. Il y a quelque chose quand même d'intéressant, c'est qu'il y a un mythe qui s'est forgé à l'époque, celle du gars qui avait chopé le VIH, qui était en colère, qui était furieux, etc., et qui allait se venger en allant le disséminer partout. C'est un cliché qui est encore opérant dans l'idée de beaucoup de gens qui n'y connaissent rien. Moi, je prends en charge des personnes avec le VIH depuis 40 ans maintenant. Tous, sans exception, sont paralysés par une seule chose, la peur irrationnelle et panique de transmettre le VIH. C'est ça le vrai problème des gens qui sont avec le VIH, c'est comment je vais faire pour ne pas le transmettre, alors que déjà, je ne sais même pas comment je l'ai chopé moi-même. Et c'est vraiment l'inverse de l'idée reçue qui est un des moteurs de la sérophobie.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Avant même ce week-end, Pierre Courade n'était pas réputé pour son humilité. Mais depuis que Nicolas Sarkozy et Carla ont été aperçus à Lourdes, il ne touche plus le sol. Il y voit la confirmation de ce qu'il nous a toujours dit, à savoir que Lourdes était une ville formidable, bien plus fun en tout cas que le Cap-Vert. Pierre, si vous voulez bien descendre de votre petit nuage et nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur la sérophobie en une minute chrono.
Et aujourd'hui, on a donc parlé de sérophobie, la peur, la crainte des personnes atteintes par le VIH. Avec nous, pour nous en parler, le médecin fondateur du Centre de santé sexuelle de 190 à Paris, Michel Michel Oyon nous a expliqué que, comme toute discrimination, elle n'était évidemment pas justifiée. Elle puise sa source dans des contre-vérités sur le VIH, des méconnaissances, une peur irrationnelle de quelque chose de plus en plus nébuleux. En fait, Michel Oyon nous a expliqué que le VIH a toujours touché une minorité. La maladie a en quelque sorte légitimé les discriminations envers les homosexuels et les populations noires, avec, ajouté à cela, une bonne dose de moraline. Au quotidien, ce sont des remarques, des questions blessantes, des soins, notamment chez le dentiste, qui ne sont pas forcément effectués ou mal. Mais il existe aussi de la sérophobie vis-à-vis de soi-même, quand on découvre que l'on est porteur du VIH. Pourtant, aujourd'hui, il faut absolument rappeler qu'un porteur du VIH sous traitement ne peut pas transmettre le virus. Il a également une espérance de vie équivalente à quelqu'un qui n'est pas porteur. Les traitements, la PrEP en particulier, font des progrès phénoménaux et, pour le coup, porteurs d'espoir. Enfin, je pourrais m'arrêter là, mais mon résumé de l'émission ne serait pas totalement complet sans revenir sur cette perche que vous m'avez tendue, Mathieu, en début d'émission. Une perche que je saisis, évidemment. Oui, le sommet sur l'IA à Paris a bien débuté le jeudi.
Et 6 février,
ça suffit. Ça suffit.
Je peux vous fournir les captures d'écran.
Merci, Pierre. Vous avez dépassé votre minute. Vous avez dépassé votre. C'est dommage, c'était parfait jusque-là. Bon, bref.
Il est coupé.
Point d'orgue d'une émission 100% fun. On retrouve GC qui m'a l'air un petit peu remonté. Mais qu'est-ce qui se passe, mon champion?
Pardon. C'était pas nécessaire. Je sais pas, Mathieu. Peut-être tous les thèmes de mes chroniques ce mois-ci. Un violeur pédophile. Le racisme, les vieux qui meurent tout seuls chez eux. Heureusement que la GC, elle est en forme, hein, et que son lithium est bien dosé, hein, sinon elle se fout en l'air. Voilà, même la Terre au carré, c'est moins déprimant que mes chroniques. Voilà, donc peut-être que c'était pas nécessaire de me rajouter le sida, hein, c'est dingue. Et je sais, docteur Royon, hein, que le VIH et sida, c'est pas la même chose. Le sida, c'est le stade le plus avancé de la maladie, et le VIH, c'est seulement le nom du virus qui, sous traitement, a très souvent une charge indétectable. Mais à moi, à la base, en fait, je suis là pour pécho des invités, je suis pas Michel Simès, en fait. Hein. Et pardon, hein, mais donner le thème, la peur du VIH au chroniqueur gay, bravo, super, belle mentalité, Mathieu, hein, c'est certainement comme ça qu'on va éradiquer la sérophobie.
Hasard du calendrier.
Oui, c'est ça, tu fais ça avec tout le monde. Hein, c'est quoi la prochaine pièce jointe de Manon? La peur de la... Merde, je me suis foiré.
Ah, non.
La peur de la sobriété.
Tout ça pour ça.
Oui, bah tu titubais hier chez moi, je rêve. Bonjour quand même.
J'ai
lipé. Oui, c'est ça, sur une bouteille de rouge. Bonjour quand même, Michel. Hein, j'ai vu que vous me suiviez sur les réseaux. Bah forcément, un vieux pédoc CSP+. Hein. On est la famille presque. Ça va, ça s'est bien passé l'émission. Vous avez vu, ça fait beaucoup, hein, d'hétérosexuels. C'est beau, ouais. Bah, et vous encore, vous venez qu'une fois. Hein. Moi, c'est mon cadre de travail. Voilà, la semaine dernière, j'ai dû leur expliquer ce que c'était qu'un lavement. Voilà. Oui, Manon, tu te souviens, hein, ça va mieux depuis. Bah, voilà. Hein, après, normalement, en termes de prévention, tout ça, ils sont au taquet. On n'a pas le choix, vu qu'on a la courade dans l'équipe, hein, et qu'elle passe son temps sur lespompeurs.com. Voilà. Je laisserai nos auditeurs découvrir ce joli site plein de promesses. Hein, d'ailleurs, Pierre, t'as pris rendez-vous avec le docteur? C'est beau? Oui, vous allez voir, docteur, à mon avis, c'est pas normal, l'odeur. Hein. Tout ça pour vous dire de vous faire dépister, hein, évidemment, toutes les IST et MST. Et la connerie aussi, ce serait bien, mais apparemment, il n'y a pas encore de test fiable. Hein, même si, à mon avis, le test sera positif, si vous avez commandé le livre de Sarko. Mais aujourd'hui, et surtout, bam. Et aujourd'hui, et surtout,
oh là là, ça dénonce,
c'est la guerre.
L'humour politique est toujours là sur Internet.
Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, et surtout, faites-vous dépister pour le VIH. C'est rapide et gratuit, et Rachida Dati peut le faire pour vous. Ah non, pardon, je me suis trompé, c'est vider les poubelles de Paris. Quand on a le VIH et qu'on est sous traitement, aujourd'hui, on vit normalement, hein, on ne peut plus le transmettre, je le répète, grâce aux médicaments, la charge virale devient indétectable, contrairement au foutage de gueule de Rachida. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux arrêterait de fréquenter une personne en apprenant sa séropositivité. Oh, moi, je vous le dis, hein, entre un plan cul séropo et un qui regarde CNews, mon choix est vite fait. Voilà, parce qu'au moins pour un, il y a un traitement efficace. Allez, je referme cette chronique en la dédiant à Michel. Pas vous, non, pas vous, bah, ça va le boulard, hein, je rêve. Mais ça va, mon oncle, mort en 93, des suites d'une longue maladie, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, par sérophobie. Il est mort du sida, et si les traitements d'aujourd'hui avaient existé, il m'aurait peut-être aidé à l'écrire, cette chronique.
Merci beaucoup, mon cher GC, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et au Mathurin à Paris pour 8 dates exceptionnelles à partir de juin 2026. C'est nouveau ça, mais
non,
caché ça,
non, toujours été comme
bien.
Ça, mon cher Mathieu.
Une semaine qu'on le dit, Mathieu. Très bien, très bien. C'est moi qui le dis, ça.
Oui, semaine.
Aussi, vous êtes aussi en tournée, Château-Thierry. Thierry, Strasbourg, Angers et même Pau, on ne se refuse oui. rien.
Mais par un vrai tour de France.
L'international, dis donc.
Ouais. Je peux dire un truc, allez voir GC, j'y suis allé la semaine dernière, samedi. C'était très drôle, évidemment, mais en plus très touchant. Madame Lacarrière a versé sa petite larme à la fin du spectacle, notamment.
Vous êtes à deux doigts aussi,
bravo.
Cyril.
Bravo,
faites attention.
Merci,
Cyril. Oui, il paraît que c'est très bien. Je viendrai
peut-être du moi-même. Du bien de moi, mais.
Je viendrai peut-être vous voir.
Peut-être. Non, c'est vrai que c'est pas mal.
Toutes les.
Il est méchant, je suis méchante aussi. Allez, bye.
Toutes les infos sur icigc.com. Merci beaucoup, Michel Oyand, d'être venu nous expliquer cette sérophobie qui sévit encore en 2025. Et rappelez-nous le nom de votre lieu, le lieu où vous recevez les gens.
Le 190, Paris 11e.
Paris 11e, donc c'est vraiment le lieu de référence pour effectivement parler séropositivité. Et vous avez une expression tout à l'heure qui est intéressante autour de ça, séro concerné. Zoom Zoom Zen.